Bonjour et bienvenue à ce cours, ce troisième cours concernant la préparation, notre guide de préparation à l'examen 70533 concernant Azure, la partie infrastructure d'Azure, donc qui s'appelle Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions. Donc ce troisième cours va concerner l'implémentation des cloud services d'Azure et comment ça se configure. Donc je suis toujours avec Stanislas.
Bonjour.
Arnaud.
Bonjour.
Donc l'objectif de ce cours, c'est de préciser un petit peu ce qu'il s'agit au niveau des cloud services d'Azure, comment ça se crée, comment ça se paramètre, comment ça se configure, et tout ça dans l'optique de bien préparer la certification 70533, donc l'examen sur Azure côté infrastructure. Eh bien, donc cet examen, quelques rappels sur l'examen qu'on a déjà précisé dans les autres cours. Mais si vous découvrez le sujet, c'est intéressant de voir que cet examen est un examen MCP classique. Il y a à peu près 50 questions, même exactement 50 questions sur 2 heures. Mm-hmm. Il est en anglais ou en japonais pour l'instant. On n'a pas encore de version française. Ouais. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, il va falloir également parler anglais pour passer l'examen.
Ou être nipophile.
Nipophile avec un N,
tout à fait.
Hypophile, oui.
Attends, moi je suis nippon.
Pas un nippo avec un H, parce que sinon ce serait un gars qui aime les éléphants, ce qui est bizarre.
Sur Azure, je suis nippon ni mauvais de toute façon.
Donc il y a 7 ou 8 sujets qui sont pris, qui font partie de la préparation nécessaire pour cet examen. Donc les websites, les Azure VM, donc les machines virtuelles Azure, qui font l'objet des 2 premiers cours de cette série. Azure Stockage, la configuration également du réseau Azure, la configuration de Azure Active Directory, Azure Backup, Azure Site Recovery, et puis ce cours qui concerne les cloud services, donc les services de cloud d'Azure. Si vous voulez plus d'informations, avoir le plan des thèmes exacts, et puis également une référence sur le cours de formation qui dure 5 jours, qu'on peut préparer si on veut dans un centre certifié de formation certifié Microsoft, allez sur ce lien. Vous aurez toutes les informations pour le passer et pour vous préparer.
Eh bien Pascal, je pense que tu as bien résumé effectivement quel était le but de cette certification. Donc on le répète, ici le but c'est vraiment de vous aider à réviser plus rapidement. On n'est pas là pour se remplacer le cours dans les centres de certification. Le cours fait vraiment 5 jours quand vous partez de zéro. Là on considère que vous avez déjà des bonnes bases et c'est pour refaire une petite passation sur l'ensemble des connaissances à acquérir pour passer de manière sereine la certification. On va commencer avec un premier module. On va parler de la configuration des services de cloud et des rôles qu'on a dans des services de cloud. Donc première chose, c'est que dans un service de cloud, on va mettre plusieurs instances d'un même rôle. Donc en gros, on a 2 types de rôles qui existent dans du cloud service. Le web role, qui comme son nom l'indique, en gros intègre des machines virtuelles qui servent de serveur web. Et puis on peut avoir également le deuxième type de rôle qu'on peut avoir dans un cloud service, ce qu'on appelle un worker role, qui en gros va contenir du code applicatif, un middleware ou d'autres choses. Donc, retenez bien, web role, serveur de JS, worker role, plutôt l'applicatif X, Y ou Z. Donc, le nombre d'instances que vous allez mettre pour chacun des rôles dans ce cloud service, en fait, on va le définir dans un fichier XML de configuration du service. Donc, ce fichier a pour extension CSCFG. Alors, c'est un petit peu barbare comme ça, mais c'est très clair, hein. Cloud Service Configuration. Il faut bien savoir... Il y a plusieurs fichiers de configuration pour un cloud service et c'est important de savoir quelle extension correspond à quel contenu en gros. Donc pour le nombre d'instances d'un rôle, qu'il soit web ou worker role, ce sera dans le fichier donc CSCFG, donc Cloud Service Configuration. Et donc à l'intérieur de ce, là on a un petit exemple ici, on va retrouver pour chacun des rôles, par exemple ici le rôle qui est le rôle démo web role, eh bien une section XML qui dira bah, il y a tant d'instances, donc de VM qui ont tourné avec ce rôle et quelles sont leurs configurations à l'intérieur. Idem, là, si j'ai un deuxième type de rôle derrière, le démo worker role qui lui a 5 instances. Donc, pour le configurer, on peut effectivement aller éditer le fichier XML soi-même. On sait que les IT, c'est pas la tasse de thé d'aller directement forcément toujours éditer un fichier XML. C'est pas une syntaxe qu'on est spécialiste. Sur l'examen, vous pouvez avoir un exemple de fichier XML. C'est relativement rare normalement dans l'examen. Par contre, on vous demandera quelle extension de fichier utiliser. Et on vous demandera plutôt de connaître les commandes PowerShell. Il y a énormément de questions sur PowerShell dans l'examen. Donc ça vaut le coup de connaître la syntaxe. Donc ici, pour définir un rôle Azure, on fera un set Azure role avec le nom du cloud service qui est associé derrière. On précisera si c'est un rôle de type web role ou worker role. On va préciser le slot. On rappelle que dans un déploiement, on peut avoir plusieurs slots de déploiement, donc staging ou pas staging, et tirer compte avec le nombre d'instances en fait, qu'on va avoir. Important, et ça peut être une question à l'examen, on peut garantir, on garantit Microsoft dans Azure des niveaux de services attendus, donc des Service Level Agreement, l'acronyme, donc le SLA. Donc pour qu'on garantisse réellement le vrai SLA qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire 99,95% de disponibilité du service, eh bien il faut au moins, dans le cloud service, avoir une instance avec, avoir deux instances pour un rôle donné. C'est logique, hein. Effectivement, comment on peut garantir une disponibilité si on a un web role qui tourne avec une seule instance, donc une seule machine virtuelle, qui par définition rebootera à un moment ou est potentiellement sur un rack qui lui peut avoir une panne, etc. Donc à retenir, pour avoir la disponibilité, ça peut être une question formulée différemment, mais c'est l'idée, c'est ça. C'est pour avoir une disponibilité, le SLA de 99,95 pour les cloud services, au moins avoir deux instances dans un rôle donné. On parle d'update et de fault domain. Donc ça encore, c'est deux choses qui sont séparées, mais qui au final permettent de répondre à la haute disponibilité d'un cloud service. Un update domain, ou des update domains, c'est une unité logique. Alors que des fault domains, c'est vraiment une unité physique. C'est-à-dire qu'un fault domain, on va dire, c'est un rack de serveurs données avec dedans du switch, donc du réseau, pardon, du stockage et puis du compute. Et l'idée, c'est de ne pas mettre tous les mêmes web roles ou toutes les instances d'un web role ou toutes les instances d'un worker role dans le même rack. Parce que si le rack a un pépin, il y a tout qui tombe et du coup, la disponibilité, elle est perdue.
Fault domain, c'est tout ce qui tombe en panne quand un composant tombe en panne dans le.
Exactement, c'est la notion de single point of failure. Donc l'idée, c'est de répartir sa VM sur au moins deux fault domains. On est d'accord. Donc, du coup, s'il y en a un qui casse, il y a toujours au moins une instance du rôle, en fait, worker ou web, qui va tourner. Et l'update domain, c'est l'unité logique qui nous permet, nous, en fait, de faire simplement des mises à jour, en gros, sur le système et les VM. Et l'idée, c'est pas quand tu fais une mise à jour de mettre à jour toutes les VM du worker role ou de mettre le worker role ou les instances du worker role ou du web role sur un node de virtualisation qui va être rebooté. C'est ridicule. Donc, du coup, là encore, l'idée, c'est de ventiler. Donc, il y en a un, c'est vraiment pour la panne, et l'autre, donc, c'est du non planifié. Et l'update domaine, c'est vraiment sur du planifié, où là encore, on va ventiler nos différentes instances pour pouvoir faire les mises à jour de tout le monde au même moment. Parce que du coup, forcément, on aura un problème. Dès que tu vas avoir, donc, à retenir, c'est dès que tu auras plus de deux instances au sein d'un worker role ou d'un web role, c'est Azure, pour vous, qui va s'occuper pour assurer ce SLA de 99,95 de dispatcher sur des domain updates et des fault domains séparés. D'accord ? Donc après, on peut l'étudier un petit peu. De base, on n'a pas à le faire parce que c'est nous qui nous en. Ça fait partie de notre gestion, entre guillemets, de notre source interne, de bien ventiler pour ne pas avoir effectivement les deux VM de ton web role sur un même rack ou sur un même domaine d'update.
Alors, on parle de déployer un cloud service. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour déployer un cloud service? Il y aura deux types de fichiers qu'on devra mettre dans le portail Azure ou en PowerShell, bien sûr. Le CSCFG, le Cloud Service Configuration File, et puis le Cloud Service Package, qui en gros est un fichier zip qui va contenir l'ensemble des binaires nécessaires pour faire tourner l'application. Et puis, il va inclure le serviceconfiguration.cloud.cscfg, donc la configuration de l'application à l'intérieur du cloud. Et puis, comment est-ce qu'on va générer ce fichier? On a un outil en ligne de commande, CSPack, qui est présent dans le SDK d'Azure. Très honnêtement, si vous utilisez Visual Studio, il vous permet de générer automatiquement ces fichiers d'ores et déjà pour vous. Lorsque vous cliquez sur publier dans votre solution Azure, il va automatiquement générer l'archive pour vous. Donc le fichier de configuration locale, le CSCFG pour Azure, avec le package, le CS Package, et en plus le CSCFG pour la configuration du cloud service. Donc ces deux fichiers en fait vont vous être générés automatiquement par Visual Studio.
Donc ça, c'est typiquement le développeur va faire son code applicatif, va vous générer tout ça, va vous le donner. Et vous, en tant qu'administrateur, vous n'allez probablement pas utiliser le CSPack comme outil ni Visual Studio, mais vous allez plutôt utiliser soit du PowerShell, avec là une commande à connaître, c'est Publish Azure Service Project. Et puis là, vous mettez les paramètres qui vont bien et les fichiers que le développeur vous a donnés. Et puis le portail d'administration, je crois qu'on a un exemple juste après, si je ne dis pas de bêtises.
Montre-nous à quoi ça ressemble, Stan.
Quand on veut faire donc un nouveau cloud service en mode création custom, c'est-à-dire qu'on part de notre code qu'on a. Donc on va cocher la case qui est Deployed Cloud Package. On va préciser dans quelle région, dans quelle est l'URL de ce cloud service. Donc tous les cloud services s'accèdent, comme les VM d'ailleurs, avec un nom unique, .cloudapp.net. Et puis ensuite, on va définir la région, le groupe d'affinité sur lequel on va vouloir déployer ça. Alors, on a parlé tout à l'heure d'availability set, etc., de tolérance. Donc automatiquement, à partir du moment où on a deux instances, nos web roles, nos workers, on a dit qu'Azure allait faire ça pour nous. Le affinity group, c'est simplement en fait un groupe d'affinité. Ça permet en fait simplement d'optimiser en gros les relations entre différents composants d'une plateforme et d'éviter de dire j'ai mes serveurs, mes frontaux web qui sont, je vais dire n'importe quoi, à Dublin, et puis mes bases de données qui sont à Amsterdam. On est dans la même région, mais ce n'est pas optimisé en termes de performance. Même chose au niveau des racks, etc. Donc l'affinité groupe, en fait, permet simplement, au sein d'une même structure, d'une même plateforme d'un cloud service, d'optimiser, entre guillemets, les temps de traitement et les temps de communication entre les différents composants. Donc on n'est pas ici sur de la gestion de disponibilité, mais sur de la gestion de performance. Donc on va choisir effectivement donc, la région sur laquelle on va déployer ce cloud service. Et la suite de l'assistant, en fait, vous voyez, est relativement simple. On vous demande un nom de déploiement. Donc ici on voit le typiquement en production en déploiement, mais on pourrait faire du staging. Parce qu'on voit qu'ici on a deux options derrière, soit la production, soit le staging pour tester avant de mettre réellement en prod. Et une fois qu'on a donné un nom à tout ça, on va prendre deux fichiers, le package dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui était généré probablement avec Visual Studio ou avec CSPAC. Donc on peut directement aller le pointer depuis le stockage local du poste de l'administrateur, qui ensuite ça va faire un upload. Soit on peut directement aller le chercher sur un Azure Blob. Et dans ce cas-là, on l'a déjà stocké quelque part en ligne. Le fichier de configuration, le .cscfg, donc Cloud Service Configuration, là encore, on peut le prendre localement, on peut le prendre sur un stockage. Dernier point, ensuite, quand on descend un petit peu dans l'assistant, on voit ici déployer, même si on a qu'un seul rôle, qu'on a un rôle avec une seule instance, on a dit que ce n'est pas recommandé d'avoir un rôle, ou web role ou worker role, avec une seule instance, c'est-à-dire une seule VM qui potentiellement va faire de l'indisponibilité. Mais on peut quand même le forcer, dire non, vas-y, déploie quand même, je le sais, c'est pas grave. Et puis, start deployment, quand effectivement on veut lancer le déploiement, quand on va cliquer sur la chose. On peut au passage rajouter des certificats, typiquement si on va signer du code ou si on va faire du HTTPS. C'est ici qu'on peut directement le packager. Il peut y avoir des questions sur l'examen qui disent dans quel fichier est-ce qu'on embarque le thumbprint du certificat. Je crois qu'on en parle juste après si je ne dis pas de bêtises.
Dans quelques slides, oui. Alors, on a vu là, qu'il y a deux boutons, staging et production. Comment ça va se passer? En fait, on va swapper les adresses IP publiques du staging et de la production. Donc, l'URL de staging, c'est celle qu'on a spécifiée dans l'assistant. Et ensuite, l'URL de la production. Et pour l'URL de staging, il va là nous créer un GUID. Et c'est ce GUID qu'on utilisera quand on voudra tester le staging. Là. Donc, rien d'explicite, rien de facile à deviner par rapport à la production.
Oh, oui, non, vraiment pas. Et donc, on remarque ici dans ce tableau, avec staging et production, qu'on a des adresses IP virtuelles et publiques qui ne sont pas les mêmes. Mm-hmm. Du coup, effectivement, entre le staging et la production, si on veut passer de l'un à l'autre, on va simplement faire une inversion en fait, des VIP, ce qui fait que du coup, le staging devient la prod, le prod devient le staging, et ça permet comme ça de faire une bascule arrière rapide, simplement par un simple swap d'adresses IP virtuelles.
Alors derrière un cloud service, finalement, c'est quoi? C'est un operating system sur lequel on va exécuter, on va poser notre code. Hein, donc on va venir exécuter comme ça sur un serveur 2IS de différentes générations. Donc on a comme ça quatre familles à l'heure actuelle présentes dans la plateforme. On peut les lister avec le get-azureOS version. Famille 1, c'est 2008 SP2. Famille 2, c'est 2008 R2. 2012 pour la famille 3. Et 2012 R2 pour la famille 4.
Voilà. On se doute de quelle sera la famille 5, la prochaine version de Windows Server. Et à noter, c'est qu'au fur et à mesure du temps, mais ça, vous n'aurez pas de questions sur l'examen, des familles vont disparaître parce que pour des raisons de support, effectivement, après ça glissera en disant. À noter, point important, je ne sais pas si on en parle juste après, si on fait du .NET, le .NET un petit peu vieux, avec du framework 3.5, le 3.5 il est supporté sur la famille 1 et la famille 2. Si on fait du 4 et du 4.5, ce sera les familles 3 et 4.
Quand on va mettre nos applications en production, on va gérer un rôle de cache, hein, ce qui va permettre d'améliorer les performances de la solution. Donc on a plusieurs modes pour faire ça, de manière in-role. Donc on a le cache qui est hébergé directement sur l'application. Donc soit on est en mode colocation, soit on est en mode dédié. Le mode colocation veut dire qu'à l'intérieur du rôle, je vais effectivement avoir, entre guillemets, une tranche, une partie des ressources de mon serveur qui sont dédiées à faire du cache sur mes VM qui sont derrière mon cloud service. Et puis en mode dédié, j'ai des VM qui font que ça, du caching pour mon application.
Ouais. À noter, c'est qu'un cluster de cache, si on passe sur le mode cluster de cache, ça nécessite un compte de stockage Azure. Donc au préalable, effectivement, dans les conditions pour pouvoir activer cette fonctionnalité, il faudra donc un compte de stockage pour pouvoir faire toutes ces opérations-là. Compte qui va être séparé probablement de d'autres ressources.
Alors à noter, c'est que par défaut, la taille du cache, c'est 1,5 giga. Donc si on a besoin d'un taille de cache supérieure à 1,5 giga, on évitera de faire de la colocation, on aura un cache dédié pour ces opérations-là. Pareil, si on a plus de 400 transactions par seconde, on va plutôt dédier des caches plutôt que de faire ça sur les applications, sur les VM.
J'ai pas eu beaucoup de questions sur le cache, je ne me rappelle pas d'ailleurs en avoir eu spécialement. Mais il peut y en avoir, ça fait partie du sujet, donc ça vaut le coup d'avoir ces quelques règles, de faire le choix si vous avez une question colocation versus dédiée. En gros, ça c'est les pointeurs qui vous font passer d'un côté ou de l'autre de la solution.
Yes, alors configuration d'un nom de domaine personnalisé pour les cloud services. Donc par défaut, on a effectivement le nom qu'on définit, .cloudapp.net. Il est possible d'utiliser un propre nom de domaine. Donc,
sous ce qui est fait, bien sûr.
Et puis, à l'arrêt d'un cloud service, à la libération de sa VIP publique, là, à noter évidemment, on peut la réserver. On en discutait dans d'autres modules, dans d'autres cours sur MVA. On peut réserver l'adresse IP publique d'Azure. Si je dois déprovisionner complètement le service, ben, je pourrais ensuite la louer vers un autre cloud service pour que mes utilisateurs aient toujours la possibilité de consommer la ressource via cette adresse IP.
Mais c'est à pouvoir tenir effectivement un cloud service qui est vide ou arrêté va libérer par défaut l'adresse IP publique qui est utilisée. Et si vous avez fait un mapping entre un nom de domaine que vous avez acheté et une adresse IP qui est l'adresse IP de cette VIP, bah, du coup il faut reconfigurer à la main, ce qui n'est pas intéressant. D'où peut-être l'intérêt d'utiliser plutôt des CNAME, des alias DNS, plutôt que d'utiliser des enregistrements de type A pour ce genre d'opération.
Yes, on en reparlera de toute façon dans quelques instants. La config SSL, on a besoin évidemment d'avoir un certificat au format PFX, c'est-à-dire qu'on a la clé privée du certificat. Les exigences minimales en matière de sécurité à l'heure actuelle, c'est de toute façon le standard, c'est d'avoir du chiffrement avec une clé de 2048 bits. Et 248, c'est un petit peu
léger
pour notre époque. Le thumbprint, il faudra l'inclure dans le CSDF pour dire, bah oui, tu utilises le thumbprint, tu vas utiliser tel certificat que je t'ai déjà uploadé par ailleurs.
Donc c'est important, ça on intègre ici une troisième notion d'extraction de fichiers. On a parlé tout à l'heure du CSPKG, qui était le package qui contenait tout ce qu'il fallait. On avait vu le CSCFG, qui était la configuration où on voyait effectivement quels étaient les différents rôles déployés dans le cloud service et leur nombre d'instances par rôle. Eh bien, on voit ici un troisième type d'extension qu'il faut retenir pour la certification, parce qu'il peut y avoir des questions sur le sujet là-dessus. C'est le point CSDF, donc Cloud Service Definition. Et c'est dans ce Cloud Service Definition, effectivement, qu'on va retrouver. Alors là encore, on va retrouver là encore ici le nom des rôles et puis le nombre d'instances. C'est également à ce niveau-là, on le retrouve ici. Mais c'est effectivement là qu'on mettra le fameux certificat qu'on fait du SSL avec le thumbprint. Je rappelle, le thumbprint, pour le voir, vous pouvez le dumper en ligne de commande ou vous pouvez aller dans la console de gestion des certificats et puis faire la propriété du certificat installé dans le store et vous allez voir le thumbprint dans les propriétés du certificat. L'adresse IP, tu nous en as parlé ?
Ouais, on en discutait. Juste pour revenir, par défaut, avec un abonnement Azure, on a 5 adresses IP qui sont réservées. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à ouvrir un caisse de support. On sera ravis de vous en fournir à un coût évidemment additionnel puisque c'est une ressource rare à l'heure actuelle. Un autre point important, c'est qu'effectivement, si une adresse IP est utilisée pour un cloud service, on ne la facture pas. Mais si vous nous la réservez et que vous ne l'utilisez pas, on vous la facture.
Alors un peu de PowerShell parce que l'examen aime beaucoup le PowerShell parce que c'est pratique pour faire plein de questions à choix multiples, pour avoir des questions à remplissage.
D'ailleurs, petit test là, saurez-vous trouver l'erreur qu'il existe dans les commandes PowerShell qu'on voit à l'écran à l'heure actuelle?
Alors j'ai une petite idée, hein. Pascal.
Je crois que dans la première, entre le verbe et le nom, il manque un tiret. Donc new tiret Azure réserve d'IP.
Eh bien merci, ça me fait plaisir de voir
qui
que
crée
vous suivez.
Une nouvelle IP réservée.
Yes, get Azure Reserved IP, removed Azure Reserved IP. Très important de garder un œil là-dessus, puisque ben, on l'a dit, hein, si vous réservez une RCP et que vous ne la consommez pas, elle va vous être facturée dans les quelques euros par mois. Vérifiez bien avec la commande GET pour voir ce qui a été réservé à l'heure actuelle. Vous pouvez aussi maintenant dans le nouveau portail Azure voir les adresses IP qui ont été réservées. Important de voir si elle est. Et vous pouvez voir aussi si elle est en cours d'utilisation ou pas.
Ouais, ça, c'est le plus important, c'est surtout qu'elle soit réservée, c'est pas très grave. C'est surtout qu'elle soit utilisée derrière pour ne pas être refacturée en fait.
Yes. Trafic, les règles de trafic réseau, bah, tout simplement pour définir quelle communication, quel type de communication sera possible entre mes différents éléments de mon cloud service. Donc on peut appliquer des règles de trafic sur les external endpoints et sur les internal endpoints. Donc définir quelles règles je vais permettre pour le trafic qui vient depuis l'extérieur et quelles règles je vais permettre sur le trafic à l'intérieur. À noter, c'est important, il y a des questions comme ça qui nous demandent potentiellement, on peut imaginer, je veux restreindre la communication entre différents rôles et je veux faire que tel rôle n'ait pas la possibilité de communiquer avec tel autre rôle. Dans ce cas-là, il y aura des règles des internal endpoints à configurer.
Exactement. Donc c'est alors les chiffres à ma connaissance, il n'y a pas de questions réellement qui vont dire combien il y a d'internal endpoints ou de règles maximum. C'est toujours bon de les avoir. À noter, c'est que vous voyez, le but en fait, c'est d'éviter d'avoir des trucs qui soient immaintenables par la suite. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a limité le nombre. Je crois qu'effectivement, ce qu'il y a de retenir sur les traffic rules, c'est que c'est dans le logiciel de configuration qui est le .csdef. Donc je rappelle, hein, .cspackag, .cscfg et .csdef. Donc le csdef, on a vu qu'on avait les rôles et les nombres d'instances et le footprint. Et bien, on a également dedans ce network traffic rule. Dans une zone particulière qui est la network traffic rule. Et puis là, on a quelques exemples. Est-ce que tu veux nous commenter l'exemple, Arnaud?
Bah, une syntaxe aussi sexy que peut l'être du XML. Hein. Donc le only allow traffic to avec la destination pour le rôle qu'on est en train de définir. Et donc là, je vais effectivement dire que pour le endpoint internal TCP to, je vais autoriser du trafic que, donc allow all traffic. C'est la règle qui sera appliquée sur cet environnement. Pas grand chose d'autre à en dire, hein. C'est une syntaxe qui est assez classique et explicite,
ouais,
en tant que telle.
Il peut y avoir des questions effectivement à remplissage là-dessus, donc ça vaut le coup d'y jeter un œil, de refaire une recherche dans votre moteur de recherche préféré sur Network Traffic Rule pour revoir d'autres exemples et bien les comprendre, parce qu'il y a quand même des chances que vous ayez ce genre de choses. Sachez bien faire la différence entre effectivement les trois fichiers également de configuration, .cfcfg, .csdef def et .cspkg. Alors, les rôles instances qu'on a dans un cloud service, en fait, bah, c'est des VM derrière, en fait, Windows Server. Donc, c'était les premières VM qu'on voyait, en fait, qui n'étaient pas des vraies VM 100% libres comme on les a aujourd'hui. C'était pas du YAS. Là, on est vraiment dans du PaaS.
Mais on a quand même la possibilité d'aller bricoler un petit peu sur cette VM, d'avoir une petite console RDP. Donc, pour ça, on va aller soit dans le portail web ou alors en PowerShell. Rappelez-vous de cette commande PowerShell. 7-Azure Service Remote Desktop Extension. Donc ça, c'est la commande PowerShell qui est spécifique à un cloud service pour activer le PowerShell, le Remote Desktop en PowerShell, ce qui n'est pas le cas par défaut, c'est pas activé. Et puis une fois que vous avez fini votre opération, bah, vous le retirez évidemment. Hein. On fait tout ça dans l'administration d'une plateforme.
On termine donc ce module 1. Donc à retenir de ce module 1 dédié au cloud service.
Eh bien, on a la possibilité de réviser comme ça trois types de fichiers. Le .csdef, le .cspackagé, qui lui-même va contenir un .cscfg, et un .cscfg qui va définir la configuration du service. On a plusieurs types d'operating system, différentes familles d'operating system qu'on va choisir par rapport à la plateforme cible et la version de .NET dont on a besoin dans notre environnement. Et puis du rôle de cache qui peut être soit en mode colocation avec ma plateforme, soit en mode dédié si on a une taille de cache de plus d'1,5 giga, plus de 400 transactions par seconde, c'est les chiffres qu'il faut retenir.
Et puis retenir également que si vous voulez avoir une disponibilité assurée telle qu'on le propose dans le service d'Azure de 99,95, c'est minimum en fait deux instances par rôle. Et ces rôles sont soit des web rôles, soit des worker rôles quand ce n'est pas du plateforme web.
Et enfin, on ne saurait trop vous recommander de regarder à la syntaxe des Network Traffic Rules.
Qui sont dans des fichiers XML. Eh bien, on se termine ce premier module et on se retrouve sur le déploiement des services qui sera le module 2.